C'est la faute à Bruxelles. Combien de fois avons-nous entendu cette petite musique ? Alors que ce sont les États membres qui font l'Union européenne de leur choix, avec leurs électeurs. Comment les élections de juin 2024 pour le Parlement européen modifient-elles cette institution ? Que nous apprend la première commission européenne présidée par Mme Ursula von der Leyen de ce que pourrait être la seconde ? Qui, pour succéder à Josep Borrell au poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Nous vous proposons les réponses de Christian Lequen, professeur à Sciences Po. Il a signé plusieurs ouvrages de référence sur les questions européennes, dont un classique, « Les institutions de l'Union européenne », co-signé avec Yves Doutriot à la documentation française, plusieurs fois réédité.
Pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Christian Lequen, à propos des institutions européennes, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte et pourquoi ?
Je crois que la principale idée reçue, c'est d'abord que ces institutions ont un pouvoir en dehors des États. Certes, le Parlement européen est l'émanation des peuples, mais enfin, dans l'ensemble, quand vous prenez les autres institutions, que ce soit le Conseil européen, chef d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, voire la Commission européenne, dans son mode de désignation, ils sont très très liés à ce que souhaitent les États membres, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est la première idée reçue. La deuxième, c'est que ces institutions seraient mues par des bureaucraties énormes. Or, lorsque vous regardez les effectifs des institutions européennes en agents, en fonctionnaires, c'est quand même beaucoup plus limité que les administrations nationales. Et c'est vrai de toutes les organisations internationales de manière générale.
Oui, l'Union européenne, c'est environ 456 millions d'habitants. Et il y a combien de fonctionnaires ?
Actuellement, 30 000 à peu près.
Donc le jour où la France sera gérée par ce ratio de fonctionnaires,
ce sera un pays très néolibéral.
Voilà. Bien. Peut-être aussi peut-on souligner que l'Union européenne, Bruxelles, sans qu'on sache bien ce que c'est d'ailleurs, Bruxelles, où siège aussi l'OTAN qui n'est pas de l'Union européenne, paraît-il, Bruxelles est à l'origine de tous les maux. Finalement, c'est aussi un paratonnerre très utile pour tous les gouvernements, quels qu'ils soient.
Oui, bien sûr, parce que c'est très facile de mettre la responsabilité sur Bruxelles en faisant valoir ce qui n'est pas vrai, que les institutions européennes ont un pouvoir de décision autonome. Non, la plupart des décisions qui sont prises aujourd'hui à Bruxelles sont le résultat d'une négociation entre les États membres.
Christian Lequen, au Parlement européen, quoi de neuf depuis les élections de juin 2024 ?
Alors, là, je dois dire que la situation française biaise un peu le regard, parce que nous, on a bien sûr pris acte du fait que le Rassemblement national, c'est-à-dire le parti d'extrême droite, avait majoritairement gagné cette élection européenne. Et en même temps, quand vous reportez à la situation globale, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, certes, l'extrême droite est un peu plus présente qu'elle ne l'était dans le passé, mais dans l'ensemble, les trois partis qu'on pourrait appeler partis de gouvernement classiques, c'est-à-dire ceux qui représentent la famille chrétienne-démocrate, ceux qui représentent la famille social-démocrate et ceux qui représentent la famille libérale, continuent à avoir la majorité au Parlement européen. Certes, le groupe qu'on pourrait appeler eurosceptique réaliste, qui s'appelle ICR en anglais, et qui compte les Italiens, Fratelli, vous savez, madame de la première ministre italienne, le parti Droit et Justice, ou encore les libéraux conservateurs tchèques, a aujourd'hui la troisième place, mais les chrétiens démocrates, les socialistes et les libéraux peuvent continuer à faire passer l'essentiel des lois s'ils font une coalition. Voilà. Donc, certes, montée des extrêmes, notamment vers la droite, mais en même temps, relative stabilité des équilibres à l'échelle globale de cette institution.
Un mot de la Hongrie de M. Orbán. La Hongrie de M. Orbán, c'est un sujet extraordinaire. Celui-ci est au pouvoir depuis l'an 2010. Depuis l'an 2010, il prend ses aises avec les traités européens. En quoi ? Vous allez nous le dire. Et surtout, depuis l'an 2010, je crois savoir qu'on est près de 14 ans après, plus de 14 ans après bientôt, finalement, il ne se passe rien.
Alors, il y a quand même un changement, c'est que pendant fort longtemps, son parti Fidesz, donc le parti de M. Orbán au niveau national, a fait partie du groupe PPE. Voilà. Il en a été exclu et aujourd'hui, il a contribué à former un nouveau groupe d'extrême droite avec le Rassemblement national. D'ailleurs, il s'appelle les Patriotes. Patriotes pour l'Europe, où vous retrouvez aussi la Lega italienne, vous retrouvez le nouveau parti Chega, le nouveau parti d'extrême droite portugais, etc. etc. Donc il a quand même aujourd'hui une existence qui est une existence à travers un parti qui est un parti ou un parti de transnational qui est un parti contestataire. Mais le plus important, c'est ce que vous disiez sur les libertés qu'il prend avec les règles européennes. Il est dans la provocation permanente et on ne peut rien faire. Et il prend d'autant plus de mesures de provocation qu'il est aujourd'hui le président du Conseil des ministres de l'Union européenne, puisque c'est la Hongrie qui a l'exercice de la présidence rotative, et il ne cesse de faire des choses sans se coordonner avec l'Europe. Donc c'est quand même très très choquant.
Y compris visiter Monsieur Poutine.
Monsieur Poutine le mois dernier, et là il vient de prendre une autre mesure, il vient d'alléger les visas pour les citoyens russes et biélorusses en Hongrie, au point d'ailleurs qu'il y a eu une réaction de la commissaire chargée des affaires intérieures, la commissaire suédoise, qui a envoyé une lettre à Budapest en demandant de s'expliquer et de prouver que ce n'est pas incompatible avec le code des visas Schengen.
Oui, voilà. Puisque la Hongrie est Schengen.
Exactement.
Ça veut dire qu'une fois que vous êtes en Hongrie, vous pouvez circuler.
Voilà. Et il a fait ça. Il a fait ça sans consultation des institutions européennes, alors qu'il représente officiellement l'Union européenne à travers la présidence. Donc c'est quand même très choquant.
Oui. À un moment, voyant que les procédures prévues pour lui signifier qu'il avait dépassé les lignes rouges ne suffisaient pas, on avait envisagé de suspendre le versement d'un certain nombre de fonds européens. À un moment, notamment l'Élysée pensait qu'on avait trouvé la solution idéale. De fait, du fait de la guerre russe en Ukraine, la Hongrie s'est mise en position de dire « je bloque » et finalement on a débloqué une partie des fonds qu'on avait mis sous le coude.
Tout à fait. Vous avez parfaitement expliqué la situation. Monsieur Orbán n'hésite pas à faire du chantage. C'est-à-dire, à partir du moment où on bloque les fonds à destination de la Hongrie, lui décide de bloquer les aides à destination de l'Ukraine. Et comme l'Ukraine, c'est une priorité pour l'Union européenne, ben on cède. Voilà. Et il sait aussi que il ne pourra pas véritablement être exclu du processus de décision, parce qu'il y a une procédure dans les traités qui permet d'être privé du droit de vote. C'est le fameux article 7 du traité sur l'Union européenne. Mais pour que cette mesure soit prise, il faut l'unanimité. Donc il y aura toujours, si vous voulez, un État membre, actuellement peut-être la Slovaquie, qui a également un gouvernement très, très populiste, qui mettra son veto. Donc monsieur Orbán profite beaucoup de l'argent de l'Union européenne, tout en étant par ailleurs peu fidèle aux règles, c'est le moins qu'on puisse dire, et franc-tireur. Et je crois que ça nous interroge beaucoup aussi dans la perspective des futurs élargissements notamment aux pays des Balkans occidentaux. On a quand même une expérience avec la Hongrie qui est une expérience très très négative. Monsieur Orban, quand il était candidat à l'Union européenne, était prêt à tout accepter. Et puis une fois qu'il est devenu membre, là, il a commencé à prendre ses libertés. Et il faudrait éviter que d'autres États à l'avenir ne fassent pareil. Je pense à la Serbie, par exemple. On sait que c'est un pays aussi qui est très, très pro-russe, par exemple, qui a une solidarité avec l'Europe qui est un peu à géométrie variable. Donc, je crois que ce sont des leçons qu'on va tirer, ce qui explique que, à mon avis, le prochain round d'élargissement sera soumis à des conditions beaucoup plus dures que le précédent à l'Europe centrale.
Entendu. À suivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Christian Lequen, après un premier mandat de présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen pourrait disposer d'un deuxième mandat. Alors avant d'en venir là, quel bilan faites-vous de son premier mandat? Chacun se rappelle qu'elle avait promis en 2019 une commission géopolitique, une commission européenne géopolitique, ce qui renvoie à la problématique de la puissance. Quel bilan?
Elle a joué à fond cette carte et elle l'a fait parfois au détriment du président permanent du Conseil européen qui était Monsieur Charles Michel. Il y a eu beaucoup d'échauffourées entre les deux, ce qui d'ailleurs nous amène à nous poser la question de l'efficacité et de la légitimité de ce double système de présidence. C'est une femme qui va de l'avant. Elle fonce, si je puis dire. Et elle est très très bonne pour utiliser, si vous voulez, toutes les zones grises du traité qui sont des zones non pas très claires, notamment qui doit représenter l'Union européenne sur la scène internationale, pour justement avoir le lead, comme on dirait en anglais. Hein, le bon exemple, c'était suite à l'attaque du Hamas du 3 octobre. L'Union européenne n'avait pas pris encore véritablement... N'avait pas pris de position complètement officielle. Immédiatement, elle est partie à Tel Aviv. C'est elle qui a été la première à parler sur le terrain au nom de l'Union européenne. Voilà. Donc c'est une femme fonceuse qui a montré aussi qu'elle sait utiliser les coalitions au sein du Parlement européen. Une des questions d'ailleurs qui sera intéressante, ce sera de voir dans quelle mesure elle utilisera parfois une coalition avec Madame Meloni, hein, avec le parti ECR. Donc c'est une vraie femme politique, Madame von der Leyen. Et ce qui explique que, bien sûr, elle n'est pas appréciée de tout le monde.
Dans une certaine mesure, bien involontairement, Monsieur Poutine l'a aidé dans la question de la puissance, en faisant revenir la guerre sur le territoire de l'Europe géographique. Il a mis l'UE devant ses contradictions, et force est de constater qu'en 3 jours, l'Union européenne, qu'on disait incapable de faire face au conflit, s'est retrouvée capable de faire face.
Oui, en votant plusieurs paquets de sanctions et en le votant à l'unanimité. C'est ça qui est assez remarquable, parce que c'est la règle de l'unanimité pour les sanctions, y compris d'ailleurs en faisant voter Orban. Orban a voté tous les paquets de sanctions. Bien sûr, parfois, il a traîné des pieds, il a essayé d'avoir des compensations, mais au final, il a voté. Non, je pense que Madame von der Leyen, elle a compris qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'Europe, je ne dirais pas que c'est non pas de régler les problèmes de politique interne, il y en a beaucoup, mais c'est en tout cas d'essayer de répondre à la question que signifie l'Europe sur la scène internationale. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à il y a 30 ans, c'est un très grand changement. Jacques Delors n'avait pas besoin de trop parler du rôle de l'Europe sur la scène internationale. Il fallait qu'il parle surtout de la coordination des économies nationales, etc. On était beaucoup plus dans quelque chose d'interne à l'Europe. Là, maintenant, c'est devant la montée des nouvelles puissances, Chine, Inde, etc., quelle est la place de l'Europe dans le monde ? Et Mme von der Leyen joue complètement cette carte.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Christian Lequen, dans la suite exacte de ce que vous venez de dire, quel bilan peut-on faire pour le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Espagnol et catalan, Josep Borrell ?
Alors d'abord, il faut dire que c'est une position, une fonction impossible. D'abord, vous avez deux patrons. On retrouve la question de la double présidence. Vous avez le président de la Commission d'une part, le président du Conseil européen d'autre part, pour tout ce qui est politique étrangère et de sécurité commune, c'est-à-dire les affaires vraiment intergouvernementales. Donc c'est jamais facile d'avoir deux patrons. Et puis, si vous commencez à vous affirmer, on va dire dans les chancelleries nationales, voilà celui-là, pour qui se prend-il ? Il n'est pas le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, il n'est que le haut représentant. Et si vous prenez un profil plus bas, on va dire, vous ne faites rien, quoi. Voilà.
Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire avec Mme Ashton, qui avait été recrutée en 2019, si je ne me trompe pas, principalement parce qu'elle était incompétente.
2009, pardon. Pour commencer en 2010, oui.
Parce qu'elle était incompétente, c'est-à-dire qu'elle ne connaissait rien aux affaires étrangères. Quel parcours, quand même, pour revenir à M. Borrell, quel parcours entre le profil de Mme Ashton et le profil de M. Borrell et la suite.
Alors, oui.
M. Borrell, restons sur lui. M. Borrell face à la Russie dans la guerre russe en Ukraine, ça donnait quoi ?
Ben, il a été très courageux dans la défense de la position européenne. Il a été sur cette question de la solidarité à l'égard des Ukrainiens, je dirais sans concession, et il a essayé d'affirmer autant que faire se peut une voix de l'Europe au sein de la coalition occidentale, qu'il ne faut pas oublier quand même que les États-Unis comptent beaucoup dans cette affaire et que ce n'est pas facile parfois de distinguer la position de l'Europe de la position américaine. Il a essayé de le faire.
Sans naïveté.
Et je pense qu'il a été un des hauts représentants, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il a été un des plus actifs depuis que la fonction existe en 2010.
Et il l'a fait sans naïveté.
Il l'a fait sans naïveté parce que c'est un homme politique qui a de l'expérience. Il a été ministre des Affaires étrangères. Donc il sait très bien qu'en politique étrangère, il faut alterner parfois le discours et parfois aussi la réelle politique. Voilà. Et c'est une combinaison entre les deux. Fermeté d'un côté, discours ouvert aux concessions de l'autre. Et je pense que son expérience de ministre espagnol des Affaires étrangères l'a beaucoup aidé.
Alors, tournons-nous vers l'avenir. Le Conseil européen du 27 juin 2024 a proposé l'Estonienne, Madame Kaja Kallas, comme candidate la plus appropriée au poste de haute représentante de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. Si le processus va à son terme, autrement dit, si elle entre en fonction, qu'est-ce que ça changera ?
Ça ne changera pas grand-chose à la fonction. La fonction, elle restera toujours celle définie par les traités, notamment le traité de Lisbonne de 2009. Mais chaque haut représentant peut insuffler quand même ses priorités, son style. Et Madame Kallas, elle est connue parce qu'elle est estonienne aussi, et donc avec une histoire très particulière à l'égard de la Russie, pour être sans concession à l'égard de Moscou. Donc elle adoptera une ligne dure. Si un jour on commence à parler de négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et dans le fond, quand vous regardez par ailleurs le paysage occidental et notamment la possible élection de Trump aux États-Unis, c'est pas mal de se dire qu'on va avoir une haute représentante qui est un peu la défenseuse d'une ligne dure.
Voilà. Une colonne vertébrale indiscutable.
Voilà, qui a une colonne vertébrale quand on parle de la Russie et qui sait de quoi M. Poutine est fait. Voilà.
Alors, vous dites sans concession à l'égard de Moscou. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Au moins avant la relance de l'agression russe en Ukraine le 24 février 2022, les pays de l'Union européenne étaient parfois sur des lignes différentes dans leurs relations à la Russie. Quelles sont ces lignes? Quels sont les pays? L'Allemagne, par exemple, était quand même très dépendante du gaz russe. La France est historiquement dans une relation ambivalente avec la Russie parce qu'elle y voit un moyen de contester l'hégémonie des États-Unis. C'est un grand classique, en s'appuyant sur la Russie. Quels sont les pays d'Europe centrale et orientale, voyez les choses autrement, et eux-mêmes sont différents.
Non, vous avez tout à fait raison. Avant l'intervention militaire russe en Ukraine, on peut dire que c'était la cacophonie stratégique à l'égard de la Russie.
Ce qui est le meilleur moyen d'être impuissant.
Bien sûr, puisque vous pouvez, lorsque vous êtes M. Poutine, jouer complètement sur les différences entre les différentes capitales de l'Union européenne, ce que les Chinois font très bien par ailleurs aussi. Mais là, je dirais, l'intervention militaire donc des Russes en Ukraine a rebattu les cartes. Ça a été un peu long parfois. Du côté français, il a quand même fallu du temps avant que M. Macron comprenne que l'idée de pouvoir nouer un nouveau dialogue avec Moscou dans le but de faire des concessions à Poutine était quelque chose d'impossible.
Oui, ça a dû le rendre. La France a plutôt diminué.
Les Allemands ont compris aussi que leur vision, qui était une espèce de on sait de quoi les Russes sont faits, mais finalement on négocie avec eux, on les a dans notre poche parce que ça nous permet d'avoir notre gaz et notre pétrole pour l'industrie allemande, ça marche plus. Voilà, donc ils ont quand même renoncé à Nord Stream, qui avait été le projet du précédent chancelier,
Nord Stream 2,
Madame Merkel. Et c'est vrai que, dans le fond, les Européens d'Europe centrale et orientale ont eu un peu le sentiment de gagner, en disant, vous savez, ça fait longtemps qu'on vous le dit.
Et l'amertume de gagner un peu tard.
Voilà, façon, voilà.
De ne pas avoir été entendu plus tôt.
Alors, bien sûr, je crois qu'on... On n'a pas suffisamment, peut-être, dans les années qui ont précédé cette intervention militaire, écouter la voix de l'Europe centrale et orientale. Parce que c'est vrai qu'ils ont une sensibilité à l'égard de la Russie qui est assez bonne, assez juste.
Une sensibilité, une expérience pratique.
Une expérience pratique liée à toutes les violences qu'ils ont connues dans l'histoire. En même temps, ils ont des obsessions aussi. Donc,
comme nous.
Comme nous. On a d'autres obsessions. Eux, ils ont aussi une obsession à l'égard de la Russie. Donc, c'est là où l'Union européenne, comme forum de discussion multilatérale, a son utilité. Parce que quand on discute des différentes positions, on peut au final parfois arriver à quelque chose qui soit assez raisonnable. Voilà. Et je pense que l'Allemagne et la France ont perdu beaucoup en crédibilité de politique étrangère suite à leur naïveté à l'égard de Poutine.
Ça,
naïveté. Oui, je pense qu'il y a eu de la naïveté. Oui, bien sûr. La naïveté. Les Allemands, parce qu'ils pensaient que l'argent permettait de tout régler. Hein, on paye ce gaz, on paye ce pétrole, donc tout va bien.
Oui, jamais il n'osera.
Et puis, du côté français, c'était plus l'idée que... Non, mais on appartient au club des grands, on est au Conseil de sécurité, membre permanent, donc les Russes nous font confiance, etc. Non, on s'est bien rendu compte aussi que ça ne marche absolument pas. Voilà. Donc... Je pense qu'on a revu clairement du côté des grands États aussi nos priorités stratégiques à l'égard de la Russie suite à cette intervention militaire en Ukraine.
Merci beaucoup. Planisphère recevait Christian Lequesne, professeur à Sciences Po. Nous vous recommandons son classique mis à jour, Les institutions de l'Union européenne, co-signé avec Yves Doutriot, à la documentation française.